Bonjour et bienvenue sur Le Pod, le podcast qui décortique les problématiques des médias sociaux avec une dose de stratégie proposée par l'agence Ouest Digital. Pendant une demi-heure, parfois plus, nous échangeons ensemble sur les métiers liés à la communication digitale, savoir-faire, conseils, bonnes ou même mauvaises pratiques du métier, on se dit tout et on partage nos approches, nos trucs et astuces pour être le plus efficace au quotidien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis accompagnée de Brian et nous allons vous parler d'outils de programmation sur les réseaux sociaux. Lequel choisir ou lesquels choisir? Et pour quels usages? Un dernier mot. Si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode. Allez, je vous laisse, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce 27e épisode du Pod. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'outils de programmation sur les réseaux sociaux. Et pour aborder ce sujet, je suis avec Brian. Bonjour Brian.
Bonjour Gwen.
Tu vas bien?
Très bien, très très bien. C'est le retour du beau temps. Ça fait très plaisir.
Et d'ailleurs, tu as la voix cassée pour le retour du beau temps.
Et voilà, c'est pour fêter le retour des grosses chaleurs.
Alors du coup, un petit mot sur le sujet du jour avant de commencer. Donc je disais les outils de programmation sur les réseaux sociaux. Donc nous avons choisi ce sujet car c'est un peu la base finalement dans notre métier, ou en tout cas l'une des bases. Quand on travaille dans le social media et plus précisément en tant que community manager, il est plus confortable d'utiliser des outils de programmation pour publier ses contenus. Donc comme je le disais, ils font partie de la base de notre travail, ils nous facilitent la vie et nous libèrent l'esprit pour ne pas avoir à publier chaque publication en direct pour chaque client, etc. D'autant plus quand on travaille en agence. Donc peut-être que vous n'en utilisez pas encore, ou tout simplement que vous ne savez pas vers quel outil vous tournez, ou bien vous en utilisez certains, mais ils ne satisfont pas toutes vos problématiques. Eh bien, pas de panique, nous sommes là pour vous aider aujourd'hui à y voir plus clair. Brian a préparé tout ça pour nous partager tous ces petites astuces du quotidien. Donc, c'est parti ?
C'est parti.
Allez, let's go. Alors, peut-être qu'on va commencer par la base, mais est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'on entend quand on parle d'outils de programmation sur les réseaux sociaux ? Parce que peut-être ça ne parle pas à tout le monde.
Oui. Alors, en outils de programmation, on parle aussi d'outils de social media management. On parle aussi d'outils tiers. Il y a plein de manières d'en parler. Hein. Il y a plein de termes utilisés par les spécialistes des réseaux sociaux. C'est ni plus ni moins qu'un logiciel qui permet d'enregistrer un post et de le diffuser à une heure et à une date bien précise. Et dans ce cas-là, c'est le logiciel qui va diffuser ce post-là, cette publication-là, même si on n'est pas forcément connecté le jour J, du coup, on n'aura rien à faire. L'exemple typique, c'est d'avoir un post qui est validé, qui est OK le lundi à 14h, sauf qu'en fait, il est prévu pour le vendredi qui suit à 7h du matin. Eh bien, avec l'outil, on va pouvoir enregistrer ce post-là, et c'est l'outil qui se permettra de le diffuser le vendredi à 7h directement. Voilà, donc c'est ni plus ni moins un outil qui nous fait gagner du temps. Je pense qu'on y reviendra, parce qu'il y a beaucoup d'utilité, et pas que de la productivité d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs, avant de parler des utilités, est-ce que tu pourrais nous en lister quelques-uns ? Donc on rentrera un peu plus dans le détail de chacun après, mais est-ce que tu pourrais nous en lister quelques-uns ?
Ouais, alors il y a... Il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé un peu à travailler dans ce domaine-là, on entendait parler de beaucoup d'Hootsuite. Hootsuite, c'est un outil qui existe toujours, qui est toujours très puissant, qui fait beaucoup de choses. C'est, je pense, le plus connu aujourd'hui à travers le monde. On a aussi à travers le monde un outil comme Buffer, qui est assez connu, BU2FER. Ça, ce sont plutôt des outils internationaux. Il y a aussi Sprout Social, qu'on n'utilise pas forcément à l'agence, mais qui est assez connu aussi à travers le monde. Et puis, en France, on a aussi des outils de programmation français, franco-français, qui ont quand même de belles réussites. Il y a AgoraPulse aussi, qui est présent à travers le monde. Ça a été créé par des Français. Et puis, on a un outil comme Swello aussi, qui a percé aussi depuis plusieurs années. Et ce sont aussi des Français qui sont derrière cet outil. Donc, voilà, il en existe vraiment beaucoup. Après, il y en a d'autres aussi qui servent qu'à certains réseaux sociaux, voilà, qui sont peut-être un peu moins connus. Mais les quatre que je viens de citer, donc à savoir Hootsuite, AgoraPulse 5 même avec Sprout Social, Buffer, Swelo et Agorapulse, c'est vraiment des outils qui sont très connus généralement de nos confrères et de nos consoeurs.
Ok, ça marche. Et alors du coup, donc t'en parlais juste avant, mais est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des utilités d'utiliser des outils de programmation au quotidien ?
Alors, la première utilité, je dirais que c'est l'optimisation. L'optimisation, c'est quoi ? C'est que quand on va produire du contenu pour les réseaux sociaux, au même titre que publier régulièrement et diversifier ses sujets, ses formats, il y a une action qui permet d'être plus performant sur les réseaux sociaux, c'est de publier quand son audience est connectée déjà, disponible, et la plus à même de réagir. Le problème, c'est qu'on a parfois des posts qui nécessitent d'être programmés à des heures où on ne travaille pas forcément. Je prends un exemple, imaginons que vous travaillez pour une marque dans la food, par exemple, où vous avez une recette de petit déjeuner, vous n'allez pas la poster à 23h, cette recette de petit déjeuner, vous allez peut-être la poster vers 6h30, 7h, quand les gens se lèvent et commencent à penser à leur petit déjeuner. Si vous travaillez aussi dans le domaine du sport, par exemple, généralement les compétitions sportives, c'est souvent le week-end, peut-être que vous ne travaillez pas forcément, vous avez besoin d'annoncer un match, vous allez peut-être programmer votre poste le samedi. Donc la priorité, c'est vraiment ça, c'est d'optimiser la diffusion de ces contenus pour publier quand l'audience est connectée et la plus prompte à réagir. Pourquoi c'est important ? Parce que si l'audience est connectée et prompte à réagir, elle va réagir. Il y a plus de chances qu'elle réagisse. Et si votre audience réagit, si elle interagit, si elle like, elle commente, elle partage, ça envoie des signaux positifs au réseau social. Et donc, ça va aussi montrer que votre contenu est pertinent et intéresse plusieurs personnes. Donc, ça va augmenter aussi la visibilité de vos messages. Donc ça c'est vraiment le premier intérêt, c'est d'optimiser la visibilité de ces contenus, et ça évite aussi d'une certaine manière de se démotiver, parce que si on publie, par exemple quand on a fait notre post, parce que il est fait, il faut le publier, on va le publier maintenant, puis on verra bien si les gens le voient, par exemple j'ai fait mon post ce matin à 10h, il est prêt, je le publie aujourd'hui, même si c'est quelque chose qui pourrait attendre demain. Le risque, c'est que du coup, ça ne soit pas trop à propos, c'est pas lié à la journée, il n'y a pas du tout de contexte, de lien avec le contexte, et du coup, ça va moins faire réagir, et donc ce sera un contenu qui sera moins visible, et on peut avoir tendance aussi à être démotivé, c'est que même si le contenu est très bon, il ne va peut-être pas fonctionner parce que ce n'est pas le moment le plus opportun. Donc il y a vraiment cette notion d'optimisation. Ensuite, il y a une notion qui est assez importante, c'est la disponibilité. On n'est pas toujours disponible, même si c'est sur notre temps de travail, pour poster un contenu. Imaginons que nous soyons social media manager et qu'on ait besoin de poster un contenu à midi, en semaine. En théorie, tu vas me dire, oui, mais à midi, en semaine, il y en a plein qui travaillent. Donc, pourquoi on a besoin de programmer ? Parfois, on n'est pas disponible. On est en réunion, on est en formation, on a un imprévu. Donc, le fait de programmer ce contenu, ça permet de gérer ces imprévus ou ces temps d'indisponibilité. Et la troisième notion, qui est un peu moins connue, qui est plutôt une notion d'utilisateur avancé, c'est une notion vraiment de productivité. C'est-à-dire qu'on va essayer de regrouper ces tâches de même nature. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de batching, de batcher ces tâches. On entend beaucoup parler aussi quand on fait de la nourriture, quand on cuisine par exemple. Là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'avoir un outil de programmation fait que quand on a 4-5 posts qui ont été validés, on va programmer ces 4-5 posts d'un coup. C'est-à-dire que notre cerveau il est concentré sur l'action de programmer. On est dans son outil, on programme tous ces posts et on évite de le faire tous les jours finalement. Donc il y a vraiment cette notion vraiment de productivité derrière. Et ce qui est très pratique aussi, au-delà de l'utilité, c'est que ça permet aussi aux community managers et aux social media managers de vraiment pouvoir déconnecter en toute tranquillité. C'est-à-dire que si à un moment donné vous avez besoin de faire un post un soir à 21h parce que c'est là où vous avez décelé que l'audience est la plus prompte à réagir, ça vous évite de devoir réouvrir votre ordinateur pour faire le post parce que c'est le moment que vous avez identifié comme étant idéal. Et pour ça, je reviendrai un peu sur l'épisode qu'on avait eu avec Alexandre Chéré de la ville de Nantes, qui en parlait d'ailleurs beaucoup. Ils utilisent eux-mêmes aussi des outils de programmation pour justement se déconnecter en dehors des horaires de travail. Et ça aussi, c'est une utilité qui est quand même pas négligeable, parce qu'on sait que le droit à la déconnexion, c'est un droit qui est fondamental dans le droit du travail et qui permet aussi à tous et tous d'être sereins dans ces journées de travail et donc d'être plus efficace.
Mais du coup, ça, c'est quelque chose qui concerne toutes les entreprises qui communiquent sur les réseaux sociaux, finalement.
Oui. En fait, à partir du moment où vous voulez avoir une présence active et régulière, c'est très difficile de ne pas pouvoir programmer. On peut, bien sûr. Moi, on connaît des clients, l'agence, qui, avant de travailler avec nous, faisaient tout sans outil de programmation et qui, d'ailleurs, ne comprennent pas toujours quel est l'intérêt. Le problème, c'est quand on les questionne, ils nous disent, en fait, tous les jours, ils se mettent des rappels pour penser à perdre le poste qui a été validé 3 jours avant. Puis, enfin, voilà. Donc, c'est quand même, à un moment donné, quand on veut avoir une présence active, durable, régulière, ça devient indispensable. Oui. Et qu'on soit une toute petite entreprise, qu'on soit même indépendant, ou qu'on soit une grande entreprise, à un moment donné, on finit par se poser la question de est-ce qu'on ne pourrait pas programmer nos postes ? Donc voilà, à partir du moment où il y a cette notion vraiment de rester présent durablement, à un moment donné, on se posera la question.
Ok, alors, du coup, pour une entreprise qui souhaite utiliser des outils de programmation, alors est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de tous ces outils de programmation qui existent et des spécificités liées à chacun pour faire le bon choix.
Alors, déjà, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'on parle d'outils de programmation, mais dans les outils de programmation, on a des outils qui sont, ce que je vais citer, des outils tiers au démarrage, des outils qui sont développés par des entreprises tierces des réseaux sociaux, qui ne sont pas les réseaux sociaux elles-mêmes. Quand je parle d'Agora Pulse ou de Twilio, c'est pas une filiale de Facebook ou de Twitter, hein. C'est vraiment des entreprises qui sont en dehors. Et donc, quand on commence à se poser la question, il faut bien arriver à dissocier les outils de programmation dits tiers, donc qui ont été développés par des entreprises tierces, qui ne sont pas les réseaux sociaux, et on a aussi des outils de programmation développés par les réseaux sociaux eux-mêmes, et donc dans ce cas-là, on va parler d'outils natifs. Un outil natif développé par les réseaux sociaux que l'on connaît très très bien, c'est le Creator Studio, qui appartient au groupe Meta, qui permet de programmer des posts sur Facebook et sur Instagram. Donc voilà, déjà la première chose, c'est de bien distinguer outils de programmation natif, outils de programmation tiers. Une fois qu'on a ça en tête, eh bien, je dirais que pour se lancer, ce qui est indispensable, c'est déjà de recenser sur quel réseau on est présent et sur quel réseau on a besoin de programmer nos postes. Parce qu'en fait, la difficulté quand on commence à se lancer dans la jungle des outils de programmation, c'est que vous allez avoir un outil qui va vous dire « Nous, on peut programmer sur Twitter, LinkedIn, Facebook ». Mais pas sur Pinterest. Puis un autre qui va dire, nous on peut faire sur Pinterest et LinkedIn, mais pas sur Twitter. Donc déjà, la première chose, c'est de regarder les réseaux sur lesquels on est présent et sur lesquels on a besoin de programmer du contenu. Ça paraît évident, mais ça permet déjà de réduire une grosse liste. Ensuite, pour chacun des réseaux, d'identifier les formats qu'on utilise le plus et pour lesquels on a besoin de programmer du contenu. Parce qu'en fait, chaque outil ne va pas permettre de programmer de la même manière. Exemple, si vous utilisez Swello, vous pouvez, pour LinkedIn, publier des vidéos en native. C'est-à-dire qu'avec Swello, vous allez faire votre post et la vidéo va être diffusée dans le fil d'actualité comme si elle avait été importée sur LinkedIn. Du coup, le contenu est plus performant, mais ça, vous ne pouvez pas publier une vidéo native avec Buffer. Parce que Buffer, il va importer la vidéo chez Buffer et ça sera un lien externe. Ce qui fait que du coup, la fonctionnalité qui en apparence paraît similaire n'est pas totalement la même. Donc la deuxième étape, une fois qu'on a listé les réseaux sur lesquels on veut programmer, c'est vraiment de lister aussi les types de formats qu'on va avoir besoin de programmer pour avoir une idée assez claire de ses besoins. De se dire, ok, bah finalement moi je suis que sur Facebook et LinkedIn, et en fait sur Facebook je publie des vidéos et principalement des images, sur LinkedIn pareil, est-ce que du coup j'ai un outil qui me permet de faire les deux? Et donc après on va recenser les différents outils qui existent sur le marché dont on a déjà entendu parler, et on va regarder si ces outils-là répondent à notre besoin. Et déjà ça permet déjà de penser à son besoin avant de penser à son outil. Voilà. Et puis après, au fur et à mesure, on va pouvoir peut-être creuser, parce que ce qui va parfois se passer, c'est qu'un outil ne pourra pas faire tout ce dont on a besoin, et donc il y a peut-être des choses qu'on fera encore manuellement, c'est-à-dire sans outil, et il y a peut-être aussi d'autres choses qui nous nécessitera de prendre un deuxième outil, ou un troisième, ou un quatrième, ce qui est le cas à l'agence. Nous, on a à peu près 4-5 outils de programmation et on sait en fonction de ce qu'on a besoin de faire et sur quel réseau, lequel utiliser. Voilà. Mais pour débuter, c'est où est-ce qu'on a besoin de publier et le format aussi qu'on utilise le plus pour voir quel est l'outil qui permet de répondre à ce besoin-là.
J'ai une question, je te laissais dérouler pour voir si tu allais en parler, mais au début, là, tu parlais des outils natifs comme le Creator Studio pour programmer sur Facebook et Instagram.
Ouais.
Alors que notre sujet, c'était les logiciels tiers.
Mmh. Ouais.
Du coup, ma question, c'est est-ce que il est possible de publier en natif sur toutes les plateformes ou est-ce qu'il y a des plateformes qui ne le permettent pas ?
De faire la programmation native ?
Faire la programmation native, ouais.
Par exemple, LinkedIn, il n'y a aucun outil de programmation, en tout cas à ma connaissance, sur le marché. Mais on parlait du Creator Studio pour Facebook, on a, pour Twitter, on a la possibilité de programmer en natif sur Twitter depuis quelques mois. On peut le faire aussi via TweetDeck. Mais effectivement, il y a encore des plateformes comme LinkedIn où il n'y a vraiment aucune programmation possible. Ce qui fait rager beaucoup de monde, d'ailleurs.
D'où l'utilité, du coup, d'utiliser des outils de programmation tiers.
Oui, ouais, tout à fait.
Ça marche. Du coup, j'attendais que tu commences à nous parler un peu plus de ta liste d'outils et des spécificités de chacun pour faire les bons choix, justement.
Ouais. Alors, déjà, la première spécificité, j'en ai parlé un peu avant, mais tous les outils ne gèrent pas tous les réseaux.
Ouais.
Ça, c'est déjà le premier truc. Donc, quand on réfléchit à s'équiper, ce qui est important, c'est de regarder les fonctionnalités de l'outil et sur quel réseau vous pouvez publier. Parce que vous allez en avoir ou vous allez être limité sur certaines plateformes. Ensuite, il y a aussi des outils dans lesquels vous allez pouvoir à la fois programmer des contenus et à la fois aussi modérer les commentaires et les messages privés. Ça, c'est important parce que parfois, on pense, à tort, que outil de programmation égale aussi outil de gestion des commentaires. Ce qui est en fait deux choses très, très différentes. Vous avez des outils qui permettent de faire les deux à la fois. Hootsuite et AgoraPulse le font, par exemple. On peut à la fois programmer et modérer. Mais vous avez des outils comme Swello ou Publer, qu'on utilise à l'agence, qui ne permettent que de programmer. Donc ça, c'est aussi la deuxième chose qui est vraiment importante à avoir à l'esprit. Quand on parle de subtilité, c'est vraiment de voir qu'est-ce qu'on met dedans en termes de fonctionnalité. Vous avez d'autres outils qui vont vous dire, vous pouvez programmer, mais même en amont, vous pouvez gérer votre planning édito. Alors, ça, c'est séduisant aussi sur le papier. Certains outils le font très bien, comme Swello. Le problème, c'est que vous allez pouvoir gérer sur l'outil de programmation que votre planning édito sur les réseaux sur lesquels vous allez publier. Imaginons que vous avez besoin de programmer des contenus sur Snapchat, par exemple. Vous n'allez pas pouvoir du coup gérer votre planning édito sur un outil qui ne permet pas de diffuser derrière sur Snapchat. Donc ça va potentiellement poser aussi un problème. Ce qui fait que d'ailleurs à l'agence, on a fait le choix, nous, depuis très longtemps, de dissocier la planification éditoriale de la programmation et de la diffusion des contenus. Ce qui fait qu'on a un outil de planification et plusieurs outils de diffusion. Donc ça, c'est finalement la troisième subtilité. Vous avez d'autres subtilités, comme par exemple, certains outils vont permettre de programmer des stories quand d'autres ne le pourront pas. C'est-à-dire que tous les placements des réseaux sur lesquels vous voulez communiquer ne sont pas disponibles. Je reviens, si je reprends par exemple l'exemple de Swello, enfin, c'est celui qu'on utilise beaucoup à l'agence. On peut certes programmer des posts sur Facebook, mais on ne peut pas programmer de stories. Donc le placement qui est disponible n'est pas forcément le même. Et donc pour ça, on va devoir utiliser un autre outil vraiment dédié aux stories. Il y a d'autres subtilités comme le fait de ne pas diffuser directement. C'est quelque chose qu'on avait beaucoup vu quand Instagram a ouvert la possibilité aux outils tiers de programmer des posts dans le feed. Il y a quelques années, on ne pouvait pas du tout, il n'y avait aucun outil qui permettait de le faire. Et quand les outils se sont lancés dessus comme Hootsuite, qui a décidé d'innover pour donner la possibilité aux utilisateurs de programmer sur Instagram des posts. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'en réalité, ce n'était pas vraiment une programmation directe. Ça t'envoyait une notification sur ton téléphone et après, tu devais toi-même faire l'action de publier. Et il y a encore certains outils qui sont comme ça aujourd'hui, où la publication n'est pas directe, ça t'envoie juste une notification. Donc il y a plein de petites subtilités comme ça, de choses qu'on ne voit pas tant qu'on n'a pas testé l'outil. Ce qui fait que c'est aussi assez difficile de choisir, décider quel outil on va utiliser tant qu'on ne l'a pas testé et vraiment testé de A à Z. On a testé toutes les possibilités pour voir comment il réagissait en fonction des situations. Parce que parfois, vous avez le discours marketing de l'outil, hein, où ils vont présenter les fonctionnalités, les bénéfices, etc. Puis après, quand on rentre dans le vif du sujet, on se rend compte qu'il y a des petites choses qui ne fonctionnent pas comme on voudrait. Donc, du coup, voilà, il y a quand même tout ça à tester. Et puis, bien sûr, plus vous avez de possibilités, plus vous avez de fonctionnalités, plus l'outil va coûter cher. Ce qui paraît quand même assez évident, hein, mais c'est important de le dire. Plus vous allez rajouter des briques, plus votre maison va être grande, mais plus votre maison va coûter cher. Donc, voilà, ça, c'est aussi un point qu'il faut avoir à l'esprit.
Ça marche. Est-ce que tu nous as préparé un petit listing des différents outils avec ce qu'on peut faire avec chacun ou pas ?
Ouais, j'ai repris le listing que nous on a à l'agence. Voilà, avec.
Ok, bah du coup, dis-nous comment partage comment on fait à l'agence.
Voilà. Alors nous, on a essayé on a plusieurs outils et on sait à chaque fois, en fonction de l'optimisation qu'on cherche à faire, quel est l'outil idéal. Par exemple, quand on a besoin de programmer des retweets, parce que c'est possible de le faire, on va utiliser Buffer, qui est le seul outil, à ma connaissance, qui permet de le faire. On s'en sert souvent pour des clients, voilà, de repartager comme ça des tweets émis par d'autres, et donc de les étaler dans le temps. On va utiliser beaucoup Swello, notamment pour LinkedIn, quand on a besoin de mentionner d'autres pages ou de publier des vidéos en native. Voilà, Swello, on s'en sert beaucoup pour ça. Le Creator Studio pour Facebook et Instagram, c'est classique. On va utiliser aussi un outil qui s'appelle Storyto pour les stories Facebook et Instagram, parce que le Creator Studio, c'est bien, mais on ne peut pas tout faire. Donc Storyto permet d'aller un peu plus loin pour la programmation des stories. Alors, une fois encore, il existe peut-être d'autres outils, mais c'est ceux, en tout cas, qu'on a retenus et qui nous vont bien. Et puis, on va utiliser un outil comme Publer, qui n'est pas très connu non plus, mais qui va nous permettre de programmer des threads sur Twitter, donc un ensemble de messages, de tweets sur Twitter qui sont ordonnés, qui ont un sens bien donné. Ou Publer permet aussi de faire des carousels sur une page Facebook, chose qu'on ne peut pas faire avec un autre outil. Voilà, donc c'est à peu près les 5 grands outils qu'on utilise le plus aujourd'hui. Une fois encore, il y en existe sûrement d'autres. Enfin, voilà, on peut y passer son temps aussi à les tester. Ce qui est important, c'est de connaître à peu près l'étendue de ses besoins, de les tester et après de s'arrêter sur une liste à peu près restreinte.
Ça marche. Est-ce que tu aurais des conseils ou des astuces à nous partager sur ce sujet ?
Alors, le premier conseil, ça va revenir sur un point que j'ai donné juste avant, mais c'est vraiment, et c'est parce que c'est une question qui est très fréquemment posée, ok, je vais choisir un outil, comment je m'y prends ? Donc c'est vraiment quel réseau, de quelle fonctionnalité j'ai besoin, et après de tester les différents outils, de réduire la liste, hein, c'est-à-dire en fonction de ses besoins, d'identifier 2-3 outils qui a priori peuvent répondre à ses besoins, de les tester sur 2-3 semaines, donc prévoir un vrai temps pour tester toutes les possibilités qui sont offertes par ces outils. Je recommande même de tester sur des comptes de test, les comptes officiels de la marque, pour voir un peu aussi s'il y a d'autres subtilités qui sont pas forcément visibles. Et une fois qu'on a fait cette étape-là, de retenir 1, 2 ou 3 outils qui correspondent à peu près à ses besoins. Mais vraiment de procéder par étapes. Quels sont mes besoins ? Je teste et après j'arrête une liste d'outils. Y a un deuxième conseil, c'est un peu contre-intuitif, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas programmer, même avec des outils. C'est pas possible, en tout cas pas aujourd'hui. Je te prends un exemple. Tu veux programmer un carrousel sur LinkedIn, aujourd'hui, il n'y a aucun outil qui permet de le faire. Je dis aujourd'hui, on est là, début 2022, peut-être qu'en 2024, ça sera possible. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, le deuxième conseil, c'est quand c'est possible, et c'est plus souvent possible qu'on ne le pense, c'est d'essayer de travailler en équipe pour savoir quand il y a un poste à faire manuellement, qui s'en occupe si je ne suis pas disponible. Donc, de toujours travailler au moins à 2 sur un sujet. Si vous êtes CM ou SMM seul en entreprise, vous n'avez pas d'autres personnes qui peuvent vous aider, moi je vous conseille vraiment d'avoir une autre personne dans votre entreprise, soit votre manager, soit un de vos collègues ou une de vos collègues, de lui apprendre comment on fait des postes en natif quand c'est nécessaire, quitte même à lui faire un petit tuto, un petit pas à pas, pour s'assurer que si un jour vous êtes absente, indisponible pour une raison ou une autre, il y a une personne qui puisse faire manuellement le poste qui est concerné, qui n'a pas pu être programmé. Ça arrive aussi pendant les vacances. Hein, et ça, je rencontre encore beaucoup de personnes qui travaillent dans le social media qui me disent « Oh là, je pars en vacances, mais là, j'ai des stories qui doivent sortir le 10 août, je serai en vacances, personne d'autre va pouvoir le faire. » eh bien, mon conseil, c'est de s'assurer qu'il y ait une autre personne qui soit capable juste de vous suppléer. Ça ne veut pas dire que la personne va vous prendre votre place, mais au moins d'avoir cette notion d'équipe. Et Alexandre, dont je parlais tout à l'heure sur l'épisode sur le droit à la déconnexion, en parle aussi beaucoup, où ils ont formé en interne des journalistes qui peuvent de temps en temps aussi prendre le relais quand c'est nécessaire. Négligez pas cette astuce, parce que bien souvent, on se rend compte que c'est plus facile à mettre en œuvre qu'on ne le pense. On a tout de suite la sensation que c'est compliqué de faire des posts manuellement. En fait, avec un bon tuto et un bon accompagnement, ça se fait assez bien. Et pour la personne qui gère les réseaux sociaux, ça permet d'être très serein. Mmh. Je veux dire, ok, demain je me casse la jambe, ou je pars en vacances, j'ai oublié de prévenir ma collègue qu'il y a des postes à faire manuellement, je sais qu'elle pourra prendre le relais, même si ce n'est pas son métier. Troisième conseil, alors ça c'est plutôt une astuce. Quand on programme, essayez de programmer des horaires qui ne sont pas rondes. C'est quoi une horaire ronde ? C'est dire, bon, bah, mon poste, il faut qu'il sorte à 19h, je le programme à 19h. C'est bête, mais en fait, alors c'est peut-être une déformation aussi de nous, à force de le faire, mais moi, quand je vois un poste qui est fait sur les réseaux à une heure ronde, genre 19h, 19h30, 20h, 8h, midi, je sais que forcément, c'est programmé. Pourtant, je sais qu'une grande majorité des postes sont programmés, mais tout de suite, ça me donne la sensation que c'est pas très authentique, quoi. Ça a été préparé. Alors que de programmer un poste à 19h37, même s'il a été programmé, ça peut donner la sensation que c'est très spontané, très authentique. Voilà. C'est un tout petit détail, mais en fait, quand je pose la question autour de moi, il y a plein de gens qui sont assez sensibles à ce détail. Et même des gens qui ne travaillent pas dans les réseaux sociaux. Et quatrième conseil, c'est de suivre au minimum les évolutions des outils de programmation, et les nouveautés, les nouveaux outils qui sortent, et même les nouveautés, les nouvelles fonctionnalités qui sortent, parce qu'en fait, il y en a vraiment beaucoup, très souvent, parce que y a beaucoup de monde, beaucoup d'acteurs sur le marché, et donc ils innovent tous très très rapidement. Et donc c'est bien de savoir à un moment donné que Apple vient de sortir telle fonctionnalité, que au-dessus vient de sortir telle fonctionnalité. Parce que un, ça peut peut-être vous donner envie d'en tester un autre, peut-être qui serait plus adapté à vos besoins. Et deux, moi ce que je trouve intéressant, c'est que quand un outil innove, généralement il est peut-être parfois le premier à le faire, mais peut-être que d'autres finiront par le faire aussi, parce que s'ils l'ont fait, c'est qu'ils avaient beaucoup de demandes de la part des utilisateurs. Donc ça donne aussi un peu une idée de comment évolue le marché des logiciels de programmation. Donc faites de la veille sur les outils, c'est vraiment un très bon moyen de comprendre comment ça évolue. Si ça vous blase, si vous n'avez pas envie de le faire, vous le savez sûrement, mais à l'agence, on aura une veille toutes les semaines qui couvre notamment l'actualité des outils. Donc ça permettra de rester quand même un peu au goût du jour. Mmh. Voilà pour ces quatre conseils et astuces. Je pense que c'est déjà bien.
Ouais. Et à l'inverse, est-ce que tu as des erreurs à ne pas commettre, à partager ?
Alors la première, c'est de penser que parce que c'est un outil en ligne, ça coûte pas cher. Oui, il y a des outils qui coûtent 10€ par mois ou 30€ par mois. Ça reste un budget, mais voilà, c'est pas forcément très cher. Mais pour autant, ça peut vite monter. En fait, quand on a beaucoup de réseaux animés ou alors qu'on veut des fonctionnalités qui sont très avancées, vous avez des outils qui vont tout de suite monter à 100, 150, 200€ par mois. Et donc, il faut être prêt. Il faut être prêt à avoir un budget. Deuxième erreur, c'est de penser aussi que vous allez trouver un outil qui fait tout. C'est-à-dire que parce que vous avez vu que Swello faisait ça, et que Buffer faisait ça, et que Agorapulse fait ça, bah que du coup, il y en a forcément un qui fait tout en même temps. En fait, non. L'outil qui propose tout en un, ça n'existe pas. Donc, il faut être capable à un moment donné de se dire qu'est-ce qui est le plus important pour moi en termes de fonctionnalité et les points sur lesquels je fais des compromis. Ça, c'est vraiment la deuxième erreur. Et il y a une troisième erreur, c'est de croire en une idée reçue. Il y a une idée reçue qui est véhiculée sur Internet depuis 10, 12, peut-être 15 ans, je ne sais pas. Et c'est d'ailleurs le CEO d'Agorapulse s'en parle très souvent. C'est l'idée reçue que parce qu'on va utiliser un outil de programmation, eh bien, du coup, ça va dégrader les performances du poste parce que les réseaux sociaux n'aiment pas quand c'est programmé. Alors, c'est une idée reçue qui a quand même la peau dure parce qu'on l'entend même encore aujourd'hui et même dans des personnes qui sont spécialistes des réseaux sociaux. En fait, ce qui me pose problème là-dedans, c'est que quel intérêt les réseaux auraient à faire ça, sachant que la plupart des spécialistes des réseaux sociaux utilisent des outils de programmation parce qu'ils ne peuvent pas être constamment connectés pour faire les posts. Donc il n'y a aucun intérêt au fait que, parce que vous allez utiliser un outil comme Twilio ou AgoraPulse, forcément vos performances vont se dégrader. Et puis j'ai envie de dire aussi, ces outils-là n'existeraient plus si c'était le cas. Plus personne ne les utiliserait si c'était le cas. Mmh. Tout le monde se serait rendu compte qu'il vaut mieux publier manuellement. Donc ça, c'est vraiment une idée reçue qui est vraiment est encore la peau dure en 2022. Voilà. Donc ne pas y croire, parce que ça n'a jamais été prouvé en fait. Et même moi, avec l'observation, je n'ai pas observé que des posts qu'on ait programmés aient moins bien marché.
Ça marche. As-tu réfléchi à une anecdote à nous raconter en lien avec le sujet du jour ?
Alors, c'est avant que je commence à faire ce métier-là. J'avais un ami qui dépannait des boîtes en community management, c'était il y a presque une dizaine d'années. Et puis je lui dis, mais comment tu fais et tout quand tu dois poster le soir, machin? Il me dit, en fait, c'est simple, moi je recommande jamais à mes clients de poster à 20h parce que je suis pas dispo. Lui, il me dit, non, moi je leur dis que c'est mieux de poster à 16h30, tu vois, parce que 16h30, je sais que je bosse à ce moment-là. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience que c'était pas du tout, c'était contre-intuitif en fait. On conseille quelque chose à quelqu'un, mais parce que ça nous arrange bien en fait. Voilà. Et là aussi, ça m'a permis de prendre conscience que c'est pas aussi simple que ça les réseaux sociaux. C'est pas parce que ça m'arrange moi. Il faut toujours aussi penser aux bénéfices pour le client. Donc ça m'a vraiment fait prendre conscience de l'importance de pouvoir s'équiper d'outils pour justement faire des recommandations qui sont pas bridées par ses seules capacités ou son seul temps en fait. Si on dit à un client franchement ce poste là il faut absolument qu'il sorte le dimanche matin à 9h parce que là on sait que l'audience va bien réagir, faut pas qu'on se dise ah non on va pas lui recommander ça parce que personne sera dispo le dimanche matin à 9h. Donc ça permet d'éviter de brider ses recommandations.
Ça marche. Moi, j'aurais une anecdote à raconter.
Vas-y, carrément.
Pour une fois.
Vas-y.
Si tu me le permets.
Bien sûr.
Je pense que je t'en avais déjà parlé, mais il y a 2 ans ou 3 ans, j'étais partie en vacances avec mon grand frère, qui est photographe amateur. Donc, c'est à côté de son métier qu'il fait ça. Et en gros, il partage ses photos sur son compte Instagram. Et il le fait tous les jours. Tous les jours à 18h. Alors ça m'a fait sourire tout à l'heure ton anecdote sur les heures rondes, parce que lui il se casse la tête à programmer tous les jours à 18h pile, parce qu'il se dit que s'il publie pas à heure super méga régulière, l'algorithme va pénaliser ses performances. Donc bref, j'avais expliqué que c'était pas si rigide que ça, heureusement. Mais bref, on était partis en vacances et en fait, tous les jours, il se mettait un rappel à 17h59 pour se préparer à poster sa photo qu'il avait préparée genre dans ses brouillons en amont, pour la poster à 18h pile. Et en gros, il se rendait malade avec ça parce que des fois, en fait, on n'avait pas de Wi-Fi là où on était, vu qu'on était à l'étranger. Et quand je l'ai vu se prendre la tête avec ça pendant une semaine, je lui ai dit non mais c'est pas possible, faut vraiment que je te fasse découvrir quelque chose parce que là ça va te changer la vie. Enfin bon, là on était en vacances, mais je lui disais tu fais comment en fait quand t'es au travail? Il me disait franchement je me mets un rappel et je prends 30 secondes pour le faire les jours où je suis au travail, quoi.
En termes de charge mentale, c'est ouf. Lui c'est pas son métier, mais ça doit être quand même difficile à vivre quand même au quotidien.
Oui, parce qu'il publie tous les jours.
Alors, quand c'est ton métier, de faire ça, de te mettre des rappels et tout, de te mettre le stress, de te dire... Parce qu'on en rencontre souvent des gens qui nous disent « Non, mais c'est bon, je me mettrai un rappel, je le ferai ce soir à 21h. » Ok, tu peux le faire une fois ou deux.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Bien sûr. À l'occasion.
Mais c'est pour ça que j'en reviens à ce que je disais au début. À partir du moment où on va avoir une présence active et régulière, c'est pas possible, en fait. Si tu veux tester des trucs de temps en temps, ok. Mais à un moment donné, si tu veux que ce soit durable, c'est pas du tout tenable de faire tout manuellement. C'est impossible. Ou alors, tu deviens fou ou folle.
C'est ça.
Je dis pas que ton frère est fou.
Clairement, quand j'ai vu qu'il faisait ça, j'étais écoute, c'est pas possible. Je vais te faire découvrir quelque chose, ça va te changer la vie. Puis effectivement, il était très content de passer sur ça après. Très bien. Bon, bah, deux anecdotes pour le prix d'une aujourd'hui.
C'est ça.
Du coup, est-ce que tu pourrais conclure le sujet du jour en trois mots ou en trois phrases ?
Alors, je dirais... oui, alors, j'ai pas du tout pensé. Comme, je sais que tu me poses la question tout le temps et je ne l'ai pas, préparé. Non, alors, je dirais que le premier mot, c'est besoin. C'est vraiment de lister ses besoins. C'est le besoin avant l'outil. Ça, y a beaucoup de gens qui font l'inverse. Genre, il y a un outil qui brille, tout le monde en parle, je vais l'utiliser. Non. Alors, peut-être qu'on l'utilise parce qu'il est très bien, mais en tout cas, c'est d'abord le besoin et après l'outil. Ensuite, je dirais qu'il y a la notion de subtilité. C'est d'avoir conscience que tous les outils ne font pas la même chose et qu'il y a des choses qui sont très subtiles parfois et qu'on ne peut pas les découvrir tant qu'on n'a pas testé l'outil. Ça, c'est vraiment le deuxième point. Et après, je dirais qu'il y a la notion de timing, puisqu'en fait, on fait ça pourquoi ? Parce qu'on a besoin de publier quand l'audience est connectée et la plus prompte à réagir. Donc, il y a une notion de recherche de timing et qu'on doit pouvoir décorréler le timing où l'audience est connectée de son temps de travail, où on a besoin de nous-mêmes de souffler. Ce n'est pas parce que notre audience réagit très bien à 22h sur Instagram qu'il faut absolument se dire bille en tête que tous les soirs à 22h, on doit être disponible pour programmer. Voilà pour mes trois points.
Super. Bon, bah, merci beaucoup à toi.
Merci, Gwen.
Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode du pod.
Avec plaisir.
Bon, allez. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Et puis, bah, à bientôt pour un prochain épisode du pod.
À bientôt.
Quelques mots avant de se quitter. Tout d'abord, vous pouvez retrouver cet épisode sur le blog de l'agence www.keepitsimple.fr, rubrique podcast, ou sur nos réseaux sociaux. Ensuite, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur le pod en nous écrivant à l'adresse podcast@west.digital. Nous serions ravis de savoir ce que vous aimez, ce que nous pourrions améliorer, les thématiques qui vous intéressent ou les invités que vous voudriez entendre. Merci beaucoup pour cet échange. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du pod.